France Culture.
Parmi les économistes, il y a les têtes d'affiche, ceux et beaucoup plus rarement celles à qui la postérité n'hésite pas à faire référence. Ce sont les Marx, les Keynes, les Schumpeter, régulièrement ressortis pour tenter de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons actuellement et surtout comment on en est arrivé là. Et puis il y a ceux, et toujours aussi rarement celles, qui se font plus discrets et qui ont participé à échafauder les rouages de notre économie sans qu'on le sache toujours. Clément Colson est de ceux-là. Sa vision presque scientifique de l'économie, sa participation à la construction et la régulation des infrastructures ferroviaires par le prix, son idée du rôle de l'État en tant que serviteur de ce dernier, ont pourtant donné naissance à toute une génération qui se distingue par sa double casquette. Ce sont les ingénieurs économistes, à la fois penseurs et artisans de la construction de l'économie française et surtout de sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Père du yield management qui détermine aujourd'hui les prix des billets de train, Clément Colson incarne aussi un tournant de la science économique qui se reconfigure à la fin du 19e siècle entre libéralisme vu comme source de progrès et interventionnisme malgré tout parfois bienvenu de l'État. C'est donc à sa rencontre que nous partons jusqu'à 15h dans cette émission programmée par Bruno Barada, préparée par Paul Weinarter et réalisée par Françoise Le Floch. Et aujourd'hui, c'est Jean-Guilain Meige qui assure la mise en onde. Et parfois, la meilleure façon de connaître un homme reste de se fier aux hommages qu'on lui rend. Je vous propose donc d'écouter l'économiste et haut fonctionnaire Jacques Rueff qui revenait sur sa carrière à l'occasion de son entrée à l'Académie française en 1965.
Mon père était médecin et il m'avait toujours conseillé de faire de la biologie, du laboratoire, après une cure de sciences exactes à l'école polytechnique. C'est ainsi qu'après la guerre, la première guerre bien sûr, comme lieutenant d'artillerie, je suis entré à l'école. Et c'est là que, d'une façon tout à fait fortuite, j'ai rencontré l'économie politique sous les auspices d'un homme qui a joué un très grand rôle dans mon existence. C'était M. Colson, qu'on ne connaît plus beaucoup, mais qui était à la fois à l'époque vice-président du Conseil d'État et un très grand économiste. Et alors j'ai vu que l'économie politique était susceptible de s'insérer dans une sorte de philosophie générale des sciences. Et c'est comme ça que pendant le dernier semestre d'école polytechnique, j'ai commis un petit livre qui s'appelle « Des sciences physiques aux sciences morales » et qui a joué un grand rôle sur mon existence, car c'est lui qui m'a fait mal tourner, si je puis dire, en sens qu'il m'a détourné des études médicales, m'a engagé vers l'étude des sciences humaines et m'a conduit à l'inspection des finances qui a occupé une grande partie de ma carrière.
Joachim de Paoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de Lyon 3, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Sciences économiques et pratiques des ingénieurs économistes, l'exemple de Clément Colson, paru aux éditions Classique Garnier assez récemment, un ouvrage qui est d'ailleurs issu de vos travaux de thèse, et dans lequel vous parlez vous-même, dès les premières pages, d'un auteur oublié, c'est ce que fait aussi Jacques Rueff pour qualifier Clément Colson. Alors une question s'impose, pourquoi lui avoir consacré votre ouvrage et de fait votre thèse? Qu'a-t-il apporté Clément Colson à la science économique pour qu'on lui consacre autant de temps et d'énergie, j'imagine?
Eh bien, au départ, je souhaitais étudier un ingénieur économiste. Donc, les ingénieurs économistes regroupent, en fait, les ingénieurs qui ont une formation à l'école des ponts et chaussées, l'école polytechnique ou l'école des mines, mais qui se sont destinés ensuite à une carrière d'économiste. Ce qui m'attirait beaucoup chez ces auteurs, c'était le lien très fort qu'ils faisaient entre la théorie et la pratique. Donc, une fois que j'ai trouvé Clément Colson comme auteur, il y avait également une autre raison qui m'attirait à cette période. Colson a enseigné donc à l'école polytechnique à partir de 1890. Et donc, cela correspond, en histoire de la pensée, à ce que l'on appelle l'école libérale française tardive. C'est-à-dire, il faut savoir qu'à partir du milieu du 19e siècle, domine en économie en France l'école libérale, qui est fondée à la suite de Jean-Baptiste Say. Elle regroupe des auteurs de langue française qui adhèrent aux idées de C, ainsi qu'à trois dogmes, la propriété privée, la liberté du travail et la liberté des échanges, que ce soit au niveau national ou international. Cette école donc a vraiment dominé le pays dans la deuxième moitié du 19e siècle. On a eu plusieurs ministres, conseillers ou des personnes comme Colson qui étaient au Conseil d'État. Mais à partir des années 1880, petit à petit, cette école libérale française va
perdre en influence.
Va perdre en influence, c'est ça. Pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il pensait que l'économie politique était complète de Pissé, et donc il passait plus de temps à la diffuser plutôt qu'à s'intéresser aux nouveautés théoriques qui pouvaient provenir de l'étranger. C'est une des raisons principales. Et du coup, aujourd'hui, peu d'études sont consacrées aux auteurs de cette période.
Oui, parce que de fait, ils ont été un peu oubliés. En fait, voilà. Il n'y a pas que Clément Colson, il a disparu un peu en même temps que tout ce mouvement-là, toute cette école-là. Alors, on verra pourquoi, finalement, ce déclin et cette perte potentielle d'influence. Avant cela, il nous faut vous accueillir. François Etner, vous êtes, quant à vous, statisticien et professeur émérite d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Vous vous êtes particulièrement intéressé à la façon dont les économistes se pensent comme tels, à la fin, en tout cas, tout au long de la seconde moitié du 19e siècle. On l'a dit, Clément Colson est né en 1853. Alors, le temps de se former, de se lancer, il débarque donc dans ce 19e siècle finissant. D'un point de vue presque historiographique, on pourrait le dire, et vous le dites d'ailleurs dans un de vos articles, François Etner, ce qui est intéressant, c'est que les économistes de cette époque sont des personnages assez instructifs. Finalement, ils sont à la fois acteurs de l'économie telle qu'elle se présente, mais aussi des témoins des idées nouvelles qu'ils vont mettre en scène. C'est ce que vous dites dans votre article. C'est peu dire, de fait, François Etner, qu'il laisse des traces derrière eux. Parmi ces traces, quelle place est laissée à Clément Colson ?
Oui, bonjour, merci. Quelle place est laissée à Clément Colson ? Colson, comme M. Paoli vient de le dire, il intervient dans une école libérale qui est un peu en déclin à la fin du 19e siècle, à partir des années 70, je pense qu'on peut dire ça. Pourquoi est-elle en déclin ? Pour la raison que vous avez dite, Monsieur Paoli, peut-être aussi pour d'autres, parce que l'école historique allemande fait plus sexy à l'époque, en Angleterre, en Allemagne, pas tellement en France, je ne sais pas trop pourquoi. Mais les économistes de la fin du 19e, comme vous l'avez dit, ils apparaissent comme ringards, comme c'est des vieilles barbes, et effectivement ils vont continuer à s'imposer parce qu'ils ont parmi eux des gens qui vivent très vieux comme Yves Guyot ou Gustave de Molinari, et donc on a l'impression que cette école libérale continue. En fait, dans les années 1880 que vous avez évoquées, elle est pratiquement fichue. Alors ceci dit, Clément Colson, vous avez raison, c'est un représentant de cette école, mais c'est quand même autre chose, c'est quand même un représentant de, c'est pas de l'école, enfin du groupe des ingénieurs économistes que vous aviez, Monsieur Paoli, commencé à expliquer, et je crois qu'on le comprend mieux dans cette tradition-là.
Alors justement, François Etner, cette tradition, puisque vous le dites ainsi, des ingénieurs économistes, est-ce que c'est une école en soi, pour bien en comprendre, notamment par rapport à l'école libérale, est-ce que c'est un groupe qui se pense comme tel ? Est-ce que c'est quelque chose qui se construit un peu de fait ? Effectivement, ce sont des gens qui sont formés pour être ingénieurs et qui se tournent vers l'économie, donc de fait, ils ont les deux casquettes et on les appelle les ingénieurs économistes, ou est-ce qu'ils construisent un mouvement qui se revendique comme tel, avec cette double approche à la fois formation en sciences dures, puis sciences humaines et sociales, et donc économiques ?
Non, je crois qu'un ingénieur économiste français, c'est pas un ingénieur qui fait de l'économie, parce que sinon, il y en aurait trop. Il est français, mais on va voir un peu pourquoi. Un ingénieur économiste, avec un tiret entre les deux, c'est un peu une race particulière. C'est un fonctionnaire à qui on demande de prendre des décisions administratives, plutôt banales, plutôt routinières. Et dans d'autres pays, on ne confierait pas ce genre de tâches à des gens qui ont fait des très hautes études scientifiques. Mais en France, oui, bizarrement. Mais cet ingénieur économiste, il appartient à une sorte d'aristocratie qui est, d'ailleurs, au service de la science, de la nation et de l'intérêt général. C'est ce qu'on enseignait à l'école polytechnique dès les débuts, dès 1794. Mais c'est une tradition donc typiquement française, parce que au service donc de l'intérêt général et de la nation, mais s'occupant de tâches a priori sans intérêt, enfin sans grand intérêt ni théorique ni pratique. Ce sont pas des gens qui sont au sommet de la hiérarchie politique, administrative ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont des au bord des routes, en train de compter le nombre de voitures qui passent et puis si ça use ou pas les routes. C'est ce que faisait Jules Dupuis, que vous avez évoqué, dans les années 1830. Il est là, à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées. Il regarde passer des voitures qui sont plus ou moins chargées, qui ont des roues plus ou moins larges. Et puis lui, il mesure si ça a beaucoup abîmé la route ou pas. Et puis il s'aperçoit que non, il s'aperçoit que les cailloux, il faut les disposer d'une certaine façon pour que ça marche bien. Et tout ça, c'est mesuré, c'est fait par un type qui a fait l'école polytechnique, c'est-à-dire la seule école de niveau scientifique en France à son époque, au 19e siècle.
Et là, François Heckner, on retrouve ce que nous disait Jacques Rueff dans l'archive qu'on entendait au début de l'émission. Finalement, il raisonne, il le dit, il passe des sciences dures aux sciences sociales, il raisonne en physicien. Et là, Joachim de Paoli, on a une transition toute trouvée avec Clément Colson. C'est aussi sa méthode. Il y a une méthode Clément Colson qui s'inscrit parfaitement dans cette mouvance des ingénieurs économiques. Il y a d'abord l'observation, ça on l'a bien compris grâce à l'exemple de François Heckner. Il y a d'abord l'observation, puis tirer finalement des théories plus ou moins mathématiques, les déductions qu'elles permettent d'élaborer, et enfin la validation. Tout ça, c'est une méthode scientifique finalement pour comprendre aussi l'économie.
Complètement. En effet, Colson, donc pour lui, tout part de l'observation. C'est vraiment son point de départ. Et à partir de cette observation, on peut modifier un peu les théories si besoin pour justement que cela corresponde à la réalité. On le verra tout à l'heure dans les applications pratiques, notamment au point de vue social. Et justement, on parlait des mathématiques. Concernant les mathématiques, Colson était à la fois critique envers leur utilisation, mais en même temps, il l'encourageait d'une certaine façon, puisqu'il nous disait que certes, les mathématiques permettaient de préciser les théories. D'ailleurs, il enseignait leur utilisation à ses étudiants. Lui-même les utilisait très peu dans ses recherches parce qu'il pensait qu'en fait les phénomènes économiques étaient trop complexes pour être uniquement limités aux mathématiques. Mais toujours est-il qu'il les enseignait quand même, il enseignait leur utilisation. Et c'est plutôt d'ailleurs ses élèves, notamment Rueff qu'on a entendu, ou Divisia et Roy, qui vont par la suite, eux, utiliser les mathématiques grâce à Colson.
Et puis on a entendu une autre caractéristique très importante pour ces ingénieurs économistes, François Heckner le disait à l'instant, c'est cette idée d'être serviteur de l'État et d'être dans cette logique-là aussi de mise à disposition de son cerveau, de ses talents, de ses compétences vis-à-vis de l'État. Et là, ça recoupe parfaitement le parcours de Clément Colson. Il faut peut-être commencer par le commencement, Joachim de Paoli. Il est né donc le 13 novembre 1853 à Versailles. En 1875, il entre à l'École Polytechnique, puis à l'École Nationale des Ponts et Chaussées 3 ans plus tard, en 1878 donc. Quel est son but lorsqu'il rejoint ces écoles? Est-ce qu'il est là simplement héritier, on va dire, d'une vision familiale de justement serviteur de l'État, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui le pousse?
Alors, Colson, dans sa famille, effectivement, il est issu d'une famille issue de serviteurs de l'État, puisqu'il avait un père directeur des contributions directes, un oncle qui était général, un autre oncle qui était directeur des contributions indirectes et procureur à la Cour des comptes. Et donc, quand Colson entre à l'École polytechnique puis des Ponts et Chaussées, je pense, au départ, il était plutôt attiré par cette carrière de haut fonctionnaire qu'il fera d'ailleurs au Conseil d'État, puisqu'il finira vice-président du Conseil d'État. Vice-président, en fait, c'est la charge la plus haute. Il n'y avait pas de président à l'époque. Et donc, il y aura toujours ce paradoxe chez Colson entre, d'un côté, la volonté de servir l'État et donc reconnaître un rôle à l'État, et d'un autre côté, ses principes libéraux qui lui font se prononcer pour une intervention très limitée de l'État. On va toujours retrouver ce paradoxe dans la plupart de ses développements.
Effectivement, c'est assez paradoxal que d'être au sein même des rouages, des couloirs, on va dire, de là où se forme la politique économique et de fait l'intervention de l'État, tout en s'en défiant aussi dans une certaine mesure. François Heckner, vous l'avez dit, c'est plutôt l'élite qui accède à ces écoles-là, en cette seconde moitié du 19e siècle en tout cas. Quel est le but finalement? Est-ce que cette génération-là de cette seconde moitié du 19e siècle qui intègre ces écoles d'ingénieurs-là, on a conscience qu'on en a besoin en fait? Est-ce qu'on on a conscience de cette idée que ce qui fait la spécificité de la France et potentiellement sa grandeur, y compris économique, c'est aussi d'avoir ces têtes bien formées finalement?
Oui, et je me permets de rebondir sur votre mot de paradoxe, quoi, avec les ingénieurs économistes qui semblent avoir une position paradoxale sur la question de l'État. Est-ce qu'on sert l'État, mais en même temps on est libéral, donc on n'a peut-être pas envie qu'il prenne une trop grande place. Je crois qu'un ingénieur économiste, il se veut donc au service exclusif de l'intérêt général, mais il y a deux partenaires dont il se méfie et qu'il rencontre dans son activité professionnelle, au pont et chaussée ou ailleurs. Et ces deux partenaires, ce sont l'entreprise privée et l'autorité politique. C'est pas rien. C'est-à-dire, pour l'entreprise privée, une image typique des ingénieurs économistes et des autres aussi, c'est que l'entrepreneur privé, c'est un arnaqueur, quoi. C'est quelqu'un qui propose ses services en truquant les devis et en s'apprêtant à ne pas les respecter le plus possible. Donc, il faut s'en méfier. Et une des tâches des ingénieurs économistes, c'est de surveiller les calculs de coûts des entrepreneurs pour voir si ils sont réellement sincères. Et puis, de l'autre côté, on a l'autorité politique. Et là aussi, l'ingénieur économiste, il s'en méfie parce que lui, il a en charge l'intérêt général. Pour lui, l'autorité politique a en charge des intérêts qui sont au fond privés, l'intérêt de sa réélection ou de sa carrière. Et l'ingénieur économiste, il se méfie de l'autorité politique. Alors, comment il peut faire pour trouver un juste
équilibre, oui.
Oui, pour avoir un juste équilibre. Au fond, pour se débarrasser des deux, hein, si je puis dire. Le truc qu'a trouvé les ingénieurs économistes français, c'est le calcul économique. Le calcul économique, c'est quelque chose de très particulier par rapport aux intérêts privés et aux intérêts politiques. C'est un calcul qui est mathématique, et les mathématiques, c'est comme la justice, c'est aveugle. C'est-à-dire qu'un calcul économique, même s'il n'est pas extrêmement justifié d'un point de vue scientifique ou autre, ou même juridique, un calcul économique, il désigne que ça va être tel trajet qui va être entrepris pour construire une nouvelle route, et on se fiche de savoir si ça va avantager un maire de gauche ou un maire de droite.
Une forme de légitimité scientifique, finalement.
Absolument. C'est-à-dire que l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, ça ne va pas être décidé par des manifestants, par des élus politiques ou par je ne sais quoi, ou par des lobbyistes quelconques. Ça doit être décidé par un calcul qui va peut-être se tromper, mais peu importe, ce calcul, il sera aveugle comme la justice. Et le résultat, ça va être une sorte d'idéal technocratique, si on peut dire. Mais c'est ce qui justifie à la fois le libéralisme des ingénieurs économistes, puisque les intérêts privés, manifestement pour eux, ne sont pas conformes à l'intérêt général. Clément Colson et Jules Dupuis, tous le disent à l'envi. Mais en même temps, l'autorité politique, ils s'en méfient. Ils savent que là aussi, on a des gens qui ne respectent pas forcément les critères d'intérêt généraux. L'intérêt général, c'est eux, en quelque sorte. Et c'est en tant que tel que c'est une sorte d'aristocratie.
Une forme d'élite dépositaire, finalement, de ce que serait la raison à fortiori économique.
C'est ça, c'est une élite à qui on a chargé de veiller sur les intérêts de la France. Et ils le font, ils se dévouent. Et c'est l'impression qu'ils ont, et c'est peut-être pas faux.
Presque un sacerdoce pour eux, et un sacerdoce que Clément Colson va poursuivre, on l'a dit, jusqu'à atteindre ce plus haut niveau, comme le disait Joachim de Paoli. Au début des années 1880, on retrouve Clément Colson au sein du ministère des Travaux Publics, où il est nommé sous-chef du cabinet du ministre en mai 1879, puis chef de cabinet avec le ministre Sadi Carnot, qui était donc ministre de septembre 1880 à novembre 1881. Et là, Joachim de Paoli, il faut le dire, la nation a besoin de ces ingénieurs. On se situe là en pleine période de mise en œuvre, notamment du plan Freycinet, programmé, qui est un programme lancé en 1878, donc un tout petit peu avant. Quelle est l'ambition française en termes d'infrastructure à l'époque ?
Alors, ce plan Freycinet, donc lancé en 1878, qui dura jusqu'à la Première Guerre mondiale, avait pour but de construire 16 000 km de nouvelles lignes de chemin de fer. Donc, en 1914, il y en aura 49 000, pour vous donner un peu une idée de la proportion. Ainsi que construire des nouveaux canaux. Et donc, se poser la question, justement, de l'utilité de ces chemins de fer, dont la majorité étaient des petites lignes d'intérêt local. Et justement, pour mesurer cette utilité, les différents ingénieurs économistes, dont Colson, utilisaient une méthode de tarification, la méthode de Dupuis. Je pense
qu'on va tout à fait aborder, mais en tout cas on comprend ce contexte de grands travaux finalement, et qui va d'ailleurs se retrouver aussi après la Seconde Guerre mondiale, et là il s'agira de reconstruire et non pas nécessairement de construire, mais en tout cas ce contexte joue énormément dans le parcours de ces fameux ingénieurs économistes.
Le 2 mai 1843, la ligne de chemin de fer Paris-Orléans était inaugurée. Le voyage coûtait 6 francs 35 et durait 3 heures. 50 années plus tard, des locomotives qui nous paraissent aujourd'hui bien démodées remorquaient les premiers trains express. Depuis, le chemin de fer s'est adapté à tous les progrès et très souvent même les a provoqués. L'électricité offrait ses étonnantes possibilités. Des centrales hydroélectriques sont nées et les fils triphasés amènent désormais l'énergie silencieuse aux sous-stations qui la distribuent aux puissantes locomotives électriques. Paris-Orléans est devenu Paris-Andaille, artère de 800 km électrifiée de bout en bout. Cette ligne électrifiée, la plus longue du monde, est parcourue à grande vitesse par des trains de 800 tonnes remorqués par des locomotives de 4000 chevaux. Résultat de 100 années d'efforts.
Une archive diffusée donc le 7 mai 1943 pour le centenaire des chemins de fer dans le journal France Actualité, d'où l'évocation de 1843 et qui mentionne donc la fameuse ligne Paris-Andaille ouverte le 21 avril 1864. En tout cas, c'est le 21 avril 1864 que le premier train arrive en gare d'Andaille. Bon, on l'a dit, Joachim de Paoli, Clément Colson s'inscrit pleinement dans tous ces travaux finalement de terrain, d'observation de ce qui se passe et de mesurer l'utilité aussi de ce qu'on est en train d'accomplir et qui coûte très cher, il faut le dire aussi, en termes d'infrastructures. Avant d'aborder cette méthode Colson pour tenter d'évaluer l'utilité et de lui donner aussi un prix, il faut peut-être préciser une autre chose, c'est qu'on a certes un Colson praticien, d'une certaine manière, dans ces couloirs de l'administration, mais il ne faut pas non plus négliger un Colson peut-être aussi théoricien et aussi un Colson professeur. On le retrouve en 1885 professeur de transport à l'école des hautes études commerciales, puis en 1892 professeur d'économie politique à l'école nationale des ponts et chaussées, ce qu'il restera je crois pendant plusieurs décennies, une quarantaine d'années je crois. Voilà, Joachim de Paoli, là il faut nous expliquer comment personne ne le forçait finalement à devenir professeur. Clément Colson, il aurait pu se contenter de rester ingénieur et donc haut fonctionnaire. Pourquoi cette bascule et pourquoi cette bascule vers l'économie politique?
Alors, pourquoi cette bascule vers l'économie politique, je ne sais pas particulièrement. Au départ, donc, il enseignait l'économie des transports. Et petit à petit, au fil des propositions qui lui ont été faites, j'imagine, il s'est intéressé à des questions beaucoup plus générales. Donc, questions d'économie des transports, mais aussi sociales ou purement théoriques. Et d'ailleurs, ça lui a permis la publication de son principal ouvrage, qui est le Cours d'économie politique, qui aura 7 volumes dans sa version finale. Alors, plusieurs éditions sont publiées entre 1900 et 1933. Au total, on compte 3528 pages dans sa version finale. C'est assez gros.
Oui, je vous le confirme.
Et justement, ce cours d'économie politique sera vraiment le manuel de référence pour tous les économistes formés dans le premier quart du XXe siècle.
Finalement, François Aetner, peut-être que cette bascule n'en est pas vraiment une et que ce profil un peu touche à tout, c'est-à-dire qu'on se spécialise dans le cas de Colson sur les transports et qu'ensuite on s'intéresse à des questions d'économie politique plus large. Ce n'est pas forcément une exception, on va dire, dans le paysage des économistes à l'époque. S'intéresser à l'économie, c'est s'intéresser un peu à tout ce qui a un rapport avec elle.
Oui, vous avez raison, c'est pas une exception, mais c'est peut-être quand même un peu une exception, parce que je trouve que Clément Colson, il exagère un peu. C'est-à-dire que, d'abord, son cours d'économie politique, je crois que personne l'a lu, en tout cas pas moi, enfin en tout cas
peut-être
pas entièrement.
Peut-être que Joachim Paoli l'a lu. Ah, il l'a fait, voilà.
Oui, monsieur Paoli, mais il était obligé, c'était comme gagne-pain, quoi. Mais c'est épouvantable, c'est très long, c'est très ennuyeux comme cours, c'est très juridique, quoi. C'est vraiment c'est très difficile à lire.
Et des passages très descriptifs qui décrivent effectivement
c'est juridique,
la loi de l'époque.
C'est juridique,
oui, il faut se replonger dans les détails. Bon.
Ah là là, et transport et tarifs, c'est épouvantable. Mais ceci dit, je dirais pas que c'était à la mode, mais il est pas le seul. Il y avait un aîné qui s'appelait Alfred Picard que vous connaissez, monsieur Paoli, et qui a écrit, qui était un type du même genre, qui a fait l'école, enfin qui était ingénieur des ponts et des chaussées, puis en même temps inspecteur des finances. Ça se faisait de faire la même carrière. Les deux carrières à l'époque. Et ce Alfred Picard, il s'est fait aussi un cours général sur les chemins de fer. Il a fait un cours de chemin de fer qui faisait 4-5 volumes, qui était encore pire que celui de Colson. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en ce qui concerne l'enseignement de Colson et les répercussions que ça a pu avoir, moi je suis plus sceptique que d'autres. Je crois pas trop que Colson a eu de l'influence par son cours. En tout cas, je me souviens pas de personnes l'ayant cité en disant « Ah oui, moi j'étais sûr que je voulais faire de l'économie et ça m'a beaucoup marqué ». Je crois que c'était moi, quand j'étais jeune, j'ai rencontré des ingénieurs, enfin non, des anciens polytechniciens qui étaient vieux à l'époque déjà, et qui avaient eu Clément Colson comme professeur. Et quand je leur posait des questions à ce propos, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. La première réponse, c'est qu'il se souvenait pas de lui, mais ça, tous les élèves ont oublié leur professeur au bout de 2-3 ans, ce qui est extrêmement injuste.
Bah, pas Jacques Rueff, qui s'exprime en début d'émission.
Oui, oui. Mais en général, ils ont oublié leur professeur, ce qui est très injuste. Et après, quand ils arrivaient, je me souviens, ils étaient plusieurs que j'avais interrogés en même temps, et quand ils se souvenaient de Clément Colson, c'était d'un petit bonhomme qui était très sourd et qui n'entendait donc pas grand-chose et qui avait une voix fluette et dont on n'entendait pas très bien ce qu'il voulait dire. Et je suis un peu sceptique sur son influence directe. Alors, influence sur Jacques Rueff, c'est certain, Jacques Rueff l'a dit, donc il n'y a pas de raison de penser le contraire. Influence par son enseignement, je ne vois pas très bien. Bon, Jacques Rueff aussi était libéral comme Clément Colson, et puis d'autres disciples, vous pensez sûrement à Divisia ou à René Roy, étaient aussi des ingénieurs libéraux, mais je ne crois pas qu'il y ait une réelle filiation entre des professeurs et des élèves, dans le cas de Clément Colson. Mais bon, je parierais pas que j'ai raison sur ce point.
Le sujet reste ouvert à discussion. Joachim de Pauli, vous avez pas mal étudié quand même. C'est une question qui occupe une grande place aussi dans votre ouvrage, de savoir qui a écouté Clément Colson en son temps et l'influence aussi de son enseignement. Est-ce que vous souscrivez à cette idée d'un Colson relativement oublié aussi de ses élèves, ou est-ce qu'il a tout de même exercé une influence non négligeable?
Effectivement, sur la majorité de ses élèves, moi aussi j'avais entendu la même description, le petit homme sourd avec une voix pas très charismatique. Mais je pense que les économistes qu'il a vraiment impactés, c'est justement ses successeurs en tant que chercheurs, pas des simples étudiants. Donc Roy, Divisia, mais aussi Bousquet, qui lui a consacré un ouvrage dans sa série sur les grands économistes, et d'autres historiens de la pensée le citent comme un des maîtres les plus influents de l'entre-deux-guerres. Je pense qu'il était très influent, très écouté dans le milieu académique, disons.
Alors, pour bien comprendre aussi par où passe cette influence et ce qu'on retient aujourd'hui de Clément Colson, on l'a dit, certes un professeur, mais aussi surtout un ingénieur économiste, mais un ingénieur tout de même, et qui va s'intéresser aux questions de transport. Alors là, on rentre dans le dur, dans le vif du sujet, on peut le dire. Et de fait, Clément Colson a plusieurs flèches à son arc, et rentrons de plein pied dans ce sujet-là. Clément Colson va se poser la question, Joachim de Pauli, de la tarification, en fait, du transport ferroviaire qui est alors en pleine construction, on l'a compris, notamment dans le cadre du plan Freycinet. Pour commencer à comprendre comment s'échafaude aussi la réflexion de Colson, ce qu'il faut dire en tout premier lieu, c'est que la tarification, elle est composée de deux éléments. Dès lors qu'on parle du transport ferroviaire, il y a le prix du transport en tant que tel et le péage, et les deux ne rémunèrent pas la même chose, et ça c'est essentiel aussi pour Clément Colson. Pour bâtir tout la suite de sa théorie.
En effet, oui. Le péage d'abord, donc, c'est quelque chose qui rémunère le droit d'utiliser le réseau, l'infrastructure. Donc aujourd'hui, c'est plus clair, aujourd'hui où on a la SNCF et des compagnies privées qui peuvent circuler, ce serait le droit d'utiliser les rails. Par exemple, il y a des compagnies étrangères qui vont faire circuler des TGV en France, elles payent une sorte de loyer, donc un péage pour avoir le droit de rouler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure.
Oui.
Voilà. Et l'autre partie, c'est ce qui rémunère l'exploitation, c'est-à-dire qui permet à la compagnie de gagner de l'argent. Alors, à l'époque, les deux étaient confondus, puisque la compagnie qui possédait les rails était aussi la seule qui faisait rouler des trains dessus. Mais effectivement, se posait donc la question de la tarification des chemins de fer, à savoir l'idée qu'il fallait que les chemins de fer aient une utilité la plus élevée possible, c'est-à-dire que le plus de monde possible puisse utiliser les chemins de fer, mais en même temps, il fallait quand même que les compagnies, jusqu'en 1937, on avait 6 grandes compagnies qui se partageaient le réseau français. Il fallait que ces compagnies arrivent à au moins un équilibre budgétaire, voire à un bénéfice.
Mais c'est ce que je veux dire. Il y a ces deux pôles-là à maintenir en équilibre, c'est-à-dire à la fois l'utilisation par le plus grand nombre et une forme de rentabilité. C'est ça que va chercher à concilier Clément Colson.
Complètement.
Et, Allez-y, Jean-Paul.
Et du coup, pour cela, donc, Clément Colson va développer une méthode qui avait été proposée par Jules Dupuis, qui l'avait précédé, dont François Hettner a déjà parlé. Donc, Jules Dupuis, en 1844 et 1849, avait proposé une méthode de tarification des voies de communication exploitées en monopole. À l'époque, il pensait aux canaux plus qu'aux chemins de fer, mais le principe reste le même. Jules Dupuis nous disait qu'en fait, il fallait que la tarification soit basée sur la notion de valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est le prix maximum qu'un utilisateur est prêt à payer pour utiliser une infrastructure. Dupuis nous disait qu'en fait, chaque utilisateur devait payer un tarif qui correspondait à cette valeur d'usage, puisque de cette façon...
C'était une question du juste prix.
Voilà, c'était un juste prix. Tous ceux qui étaient prêts à payer utilisaient le transport, donc voyager. Et la compagnie avait un bénéfice suffisant.
François Hettner, effectivement, il faut peut-être rendre à César ce qui appartient à César. Certes, Clément Colson a pas mal avancé sur cette question des tarifs, on va rentrer en détail là-dessus, mais il n'est pas le premier à se poser la question. On l'a dit, il y a évidemment le personnage de Jules Dupuis qui a beaucoup compté. Qui est ce Jules Dupuis? Est-ce qu'il appartient lui aussi? Est-ce que c'est une sorte de précurseur des ingénieurs économistes? Quel rôle a-t-il joué dans ce paysage qu'on a commencé à décrire depuis le début de l'émission?
Je reviens à Clément Colson à propos de Jules Dupuis. Je crois que le grand mérite intellectuel, et je dis pas ça pour moquer de lui, mais le grand mérite intellectuel, et peut-être comme professeur de Clément Colson, c'est d'avoir compris Jules Dupuis. C'est pas qu'il a été le seul à le comprendre, mais je trouve que Clément Colson a raconté les théories de Jules Dupuis mieux que personne d'autre, quoi. C'est vraiment très clair, il y a des illustrations graphiques, et c'est quelqu'un qui a compris Jules Dupuis, et à son époque, certaines personnes n'étaient pas dans ce cas-là, et il y a eu des controverses que peut-être on va pouvoir évoquer, et c'est un grand mérite de l'avoir compris. Alors Jules Dupuis, qui est Jules Dupuis? C'est un grand homme, lui aussi, il y a plein de grands hommes chez les ingénieurs économistes, et c'est de la génération précédente, c'est de la génération où la grande modernité, c'était pas le chemin de fer, c'était les canaux dans les années 1820-1830, et on a entrepris un plan d'élaboration et de restauration de canaux en France qui a très mal marché, c'est-à-dire qui s'est avéré très décevant. Alors que les ingénieurs des ponts et chaussées misaient énormément sur les canaux parce que c'était moderne, c'était jeune, c'était dynamique. Et Jules Dupuis, c'est un peu le rabat-joie dans cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il a proposé une méthode d'évaluation des avantages des voies de communication qui est toujours enseignée dans tous les endroits convenables aujourd'hui. Et sa méthode, c'est ce que M. Paoli a expliqué, c'est de considérer que l'avantage de quelqu'un qui utilise un mode de transport, c'est le prix maximum qu'il est prêt à mettre comparé à ce qu'on va lui demander. Autrement dit, c'est comme moi quand j'achète un pantalon en profitant des soldes. Si le pantalon est vendu 70 euros mais que j'étais prêt à mettre 100 euros, bah, je gagne 30 euros. Et Jules Dupuis ne prend pas cet exemple, mais c'est un peu ça qu'il a derrière la tête. Je gagne 30 euros en faisant les soldes. Et ben, de la même façon, si je suis prêt à payer 100 euros pour aller à Lyon en TGV et qu'on me le propose à 80 euros, je gagne 20 euros. Et c'est comme ça qu'on a calculé que le TGV entre Paris et Lyon, que M. Paoli a utilisé donc hier et demain, c'est comme ça qu'on a calculé que le TGV entre Paris et Lyon était avantageux par rapport évidemment à l'avion, mais il était avantageux comparé au coût que représente la construction d'un TGV.
Et c'est ça qu'il faut peut-être bien comprendre aussi, Joachim Paoli, parce que si on commence à se dire que ce qui compte, c'est la valeur d'usage de l'individu qui prend le train ou l'avion ou, je ne sais pas, ce qui prend les canaux en l'occurrence, mais on pourrait se dire que chacun a bien sa vision finalement de ce qui est utile ou de ce qui ne l'est pas, c'est très individuel finalement, et ça Dupuis va le prendre en compte. Il y a une façon de rationaliser peut-être la chose et puis de lisser peut-être au-delà de l'usage qui dépend du contexte, qui dépend de ce que la personne en attend. Ce que va faire Dupuis, c'est quantifier l'utilité en fait de ces travaux publics au-delà de l'usage très, très personnel.
Oui, voilà. La grande difficulté, en effet, c'est que la valeur d'usage d'un bien ou d'un service, elle va être complètement différente d'un individu à l'autre. Par exemple, vous avez parlé d'un pantalon, peut-être que vous êtes prêt à dépenser 100 euros pour un pantalon. Moi, ce serait 50 euros maximum. Mais donc, notre valeur d'usage est différente, mais aussi suivant les circonstances. Par exemple, si ce matin, en me levant, je m'étais rendu compte que j'avais pas de pantalon, pour venir, j'aurais été prêt à le payer très très cher, mon pantalon, 300 euros. Alors que d'habitude, 50 euros était le grand maximum. Donc, ça dépend à la fois des individus, mais aussi des circonstances.
Et ça, François Hettner, vous souhaitez réagir ?
Oui, réagir, non, approuver, mais juste, non, compléter ce que vous avez dit. Dupuis, si on explique qu'il a compris que je gagne 30 euros en faisant les soldes, bah ça en fait pas un génie, ça en fait pas quelqu'un dont il faut honorer la mémoire. Son grand mérite à Jules Dupuis, selon moi, c'est d'avoir mathématisé, d'avoir formalisé cette idée, et deuxièmement, et c'est pas tout, et deuxièmement, d'avoir proposé des estimations qu'on dirait aujourd'hui économétriques, des estimations empiriques de ces avantages des canaux ou des voies de chemin de fer. Parce que dire dans un cours théorique, voilà, l'avantage c'est ceci, c'est cela, il faut en tenir compte, ça va pas loin. Un ingénieur économiste, justement, il va plus loin parce que lui, en disant ces choses-là, il se demande comment on va pouvoir le mesurer en pratique. Et Jules Dupuis, il a trouvé un truc. Et c'est le premier à avoir trouvé ce truc qui permet, en gros, avec les fonctions de demande, quoi, avec l'estimation des fonctions de demande, c'est lui qui a trouvé comment on peut mesurer l'ensemble de ces avantages dont vous avez raison de dire qu'ils étaient individuels, qui dépendent des circonstances, etc. Et Jules Dupuis, il a trouvé un truc qui permet, à partir des estimations, enfin je dis ça en gros, quoi, des fonctions de demande, de mesurer cet avantage, cette utilité des travaux publics, comme il disait, et de comparer ensuite avec le coût.
Donc avec Dupuis, c'est totalement l'idée du tarif unique qui devient obsolète, en fait. Dupuis s'inscrit totalement en faux vis-à-vis de cette idée-là. Mais François Hettner, est-ce que, vous l'avez dit, son grand mérite, on va dire, est d'avoir proposé des solutions très concrètes. Est-ce que cette idée-là, cette modélisation-là, elle est appliquée pratiquement dès qu'elle sort du cerveau de Dupuis ? Est-ce qu'il y a une réception plutôt positive ?
C'est une question difficile.
Parce que Joachim Bonnefoy fait de grands noms de la tête. Donc, a priori, c'est que c'est excellent.
Oui, alors,
je sais qu'au départ, la tarification a été enseignée à l'école des Ponts et Chaussées qu'à partir des années 1880. Donc, en fait, il y avait un gros souci dans l'analyse de Dupuis. En théorie, c'était très très bien pour mesurer l'utilité d'une voie de communication et nous dire combien on devait payer. Mais il y avait un gros souci. C'était le problème de la révélation pratique des préférences. C'est-à-dire que Dupuis nous disait, il faut que chacun paye le prix maximum qu'il est prêt à payer, mais...
On va les toquer à toutes les portes. Savait,
voilà, les individus, ils vont pas eux-mêmes payer le prix maximum s'ils peuvent payer moins. Donc, il nous disait pas comment faire en sorte d'aboutir à ce que chacun paye le plus élevé qu'il est prêt à payer.
Et là,
c'est là, justement, que Colson arrive.
Colson revient, voilà.
Et hop, Colson arrive. Et Colson, justement, va nous proposer des moyens pratiques de révélation des préférences, mais dans le domaine des chemins de fer. Bien précis. En fait, il va nous proposer un système d'options pour que les utilisateurs différencient eux-mêmes les conditions dans lesquelles ils vont effectuer un transport. Colson nous dit que, au départ, chaque usager doit payer ce que j'ai appelé un tarif de base, c'est-à-dire un prix qui correspond uniquement au fait d'être transporté, juste d'aller au point A au point B, sans rien. Et à ce tarif de base va s'ajouter un système d'options donc, que les utilisateurs vont choisir. Alors, il nous propose, pour les marchandises ou pour les voyageurs, pour les marchandises, il va nous dire, voilà, les expéditeurs doivent avoir le choix de la vitesse. S'ils veulent que leurs marchandises arrivent vite, ils paieront plus cher. De même, ils peuvent souscrire une assurance en plus, pour au cas où la marchandise soit abîmée ou perdue. Le tonnage doit être pris en compte en faisant des remises si on envoie en grande quantité. De même, si on souhaite envoyer une marchandise emballée plutôt qu'en vrac, on doit payer un supplément. Pour les passagers, Colson va nous proposer différentes classes de transport suivant le degré de confort que l'on souhaite. La possibilité de même que les marchandises de prendre une assurance au cas où on ait un accident ou du retard. Et aussi un supplément à payer pour les bagages, suivant le poids.
France Culture.
J'ai acheté le transport, je pense. D'arriver de point A au point B. S'il y a une place, je m'assois. S'il n'y a pas de place, je me débrouille. Est-ce que j'ai le choix ? On paye pour le transport.
Entendez-vous l'écho ?
C'est un billet TGV loisirs normal, en fait. C'est plein d'arrives. Donc, on se prie 15 jours à l'avance. C'est un vrai budget.
Aliette Ovine.
Voilà, on retrouve finalement aujourd'hui encore ces problématiques-là, cette idée d'assurance, cette idée de choisir la classe dans laquelle on veut voyager, le niveau de confort, de fait qui en découle. On comprend, Joachim de Paoli, que Colson propose, en un mot commençant, de donner la parole finalement aux usagers via le prix qu'ils sont prêts à payer. Ce sont eux qui déterminent dans quelle classe eux ou leurs marchandises doivent voyager, donc eux qui expriment directement leur préférence, en d'autres termes la valeur d'usage. On voit en quoi ça peut jouer sur l'acceptabilité du prix, mais est-ce que ça ne pose pas un problème, Joachim de Paoli, vis-à-vis du niveau de rendement finalement de ces lignes, et donc de rentabilité, puisque c'est l'autre versant de la pièce, on l'a dit, pour l'exploitant?
Alors, en fait, au départ, donc, les six grandes compagnies, je n'ai pas étudié la tarification des six grandes compagnies au départ, mais il y a de grandes chances qu'elles s'inspiraient de la méthode de Colson, puisque les dirigeants de ces six compagnies, la plupart venaient des Ponts et Chaussées, et donc, depuis 1880, avaient appris la méthode de Dupuis. En revanche, c'est à la création de la SNCF, en 1937, donc en fait, dans les années 30, les compagnies étaient déficitaires, elles avaient demandé à être nationalisées. Du coup, lors de la création de la SNCF, ben, la compagnie va appliquer presque mot pour mot la méthode de Dupuis telle que proposée par Colson, puisqu'on va effectivement retrouver, alors autant pour les voyageurs que pour les marchandises, l'idée de degré de confort. Donc, comme je vous le disais, il y avait trois classes qui ont été mises en place pour les passagers. La possibilité de wagons ouverts ou couverts pour les marchandises. Une assurance, donc, pour augmenter le degré de responsabilité du transporteur. Pour les marchandises, comme le proposait Colson, deux vitesses sont au choix, la petite et la grande. Le prix est dégressif avec la quantité transportée. Et de même, un supplément est à payer si l'on veut emballer les marchandises. Pour les voyageurs, le bagage est à payer en supplément en fonction de son poids. Exactement comme le préconisait Colson. Donc, au départ, ça marche plutôt bien.
Au départ, ça marche plutôt bien, mais on se situe là en
1937, fin des années 30, on va le dire.
Et vous le dites dans votre ouvrage, Joachim de Paoli, tant pis, je divulgâche la fin, mais vous le dites dès 1948, c'est une autre vision qui prévaut. Oui. Ça ne va pas durer. Alors, il faut nous expliquer de fait pourquoi.
Alors, oui. En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, se développe la concurrence, notamment du camionnage, donc les transports de marchandises par camion, et les voitures individuelles. Du coup, la SNCF connaît à nouveau un déficit.
Puisque c'est une forme de concurrence, donc il y a un report.
Voilà, une forme de concurrence, moins de trafic, moins de passagers. Du coup, la SNCF reconnaît à nouveau un déficit et donc va se poser la question de mettre en place une nouvelle tarification. Cette fois, la solution va venir de l'École des Mines, avec un économiste qui s'appelait Maurice Allais, qui sera prix Nobel par la suite. Cet économiste va en fait nous expliquer que avec la méthode de Colson telle qu'elle est appliquée, il y a un souci, c'est qu'on ne tient pas compte des différences dans la fréquentation entre les horaires, sur une même ligne, entre différents horaires. On a des trains qui roulent à vide, des trains qui roulent bondés. Or, Allais nous dit, le coût marginal, c'est-à-dire le coût par passager supplémentaire, va pas être le même dans les deux cas, puisque dans les chemins de fer, ce qui caractérise notamment les industries de chemin de fer ou plus tard les avions, c'est qu'il y a de très importants coûts fixes. C'est-à-dire, coûts fixes, donc c'est des coûts qui vont être indépendants du nombre de passagers, tels que l'achat d'un wagon, d'un train, d'une locomotive, ou alors que le train roule plein ou vide, il faudra un conducteur. Or, quand il y a des coûts fixes et qu'on est en période où il y a très peu d'affluence,
forcément, on perd de l'argent.
Forcément, les coûts fixes sont répartis entre un très petit nombre de passagers et donc la compagnie ne va pas avoir un tarif suffisant pour couvrir ces coûts fixes. Donc, Allais va nous dire, ce qu'il faut chercher à faire, ben, c'est arriver à égaliser les fréquentations entre les périodes creuses et les périodes pleines. Et du coup, ça va aboutir à la tarification par période, que l'on trouve encore dans les TER aujourd'hui.
C'est ce que j'allais vous dire, on retrouve ces zones... Enfin, je ne crois plus maintenant, mais à l'époque, c'était zone bleue, zone blanche...
À l'époque, il y avait même zone rouge.
Et zone rouge,
aujourd'hui,
voilà.
On a bleu et blanc. Voilà. Donc, période bleue, c'est période creuse. Donc là, le prix est plus bas pour essayer d'attirer donc, des personnes sur ces heures-là. Période blanche seront les périodes normales, et période rouge, au contraire, les périodes de pointe. Période de pointe, là, à nouveau, le risque, c'est que les coûts fixes réaugmentent, puisque si un train est plein et qu'on veut à tout prix mettre quelqu'un des passagers supplémentaires, il faut acheter un nouveau train. Et donc, les coûts fixes réaugmentent.
Des coûts qui augmentent, ouais.
Et donc, bah, cette méthode, proposée au départ par Allais, puis reprise par ses élèves, notamment Boiteux, va se développer vraiment à la SNCF dans les années, fin des années 40, années 50. Et la méthode de Colson, basée sur la valeur d'usage, va disparaître petit à petit. Ainsi, en 1956, la troisième classe est supprimée. Il n'y en a plus que deux aujourd'hui. De même, aujourd'hui, les bagages, on peut voyager sans problème avec des bagages, surtout dans les TER. Et l'assurance, de même, est supprimée. Donc, petit à petit, cette méthode à la valeur d'usage va disparaître et être progressivement oubliée.
François Etner, petite parenthèse, vous m'avez fait le signe que vous vouliez réagir, puis j'aimerais bien aussi faire une petite parenthèse aussi sur cette figure de Maurice Allais. On l'a dit, il faisait l'école des mines, il est passé par l'école des mines, c'est un autre ingénieur économiste, bien plus tard, puisqu'on parle là du début des années 50, finalement c'est aussi une école, ou en tout cas une mouvance qui essaime, qui infuse tout au long du XXe siècle aussi.
Oui, Maurice Allais, oui, c'est important et je vais bien en parler avec plaisir dans une minute, mais une petite note de bas de page, si vous êtes d'accord, et allez-y. Vous m'interrompez si c'est embêtant, la méthode de tarification à la Colson. Moi, je suis pas exactement sur cette même longueur d'onde. Il y a deux problèmes que pose Dupuis, c'est premièrement, est-ce qu'il faut construire ou pas telle voie de chemin de fer, enfin telle route, et puis deuxièmement, comment la financer? Alors comment la financer? Dupuis, il a deux réponses que reprend Clément Colson, c'est qu'il y a deux méthodes très simples pour financer qui sont optimales. C'est premièrement la gratuité, parce que tout le monde utilise l'infrastructure. Et puis deuxièmement, tarification à la valeur d'usage, comme Monsieur Paoli l'a expliqué, puisque c'est ce qui permet d'avoir le plus grand financement et puis un financement qui correspond à l'utilité qu'on avait trouvée à construire cette infrastructure. Nous sommes d'accord, mais la tarification à la valeur d'usage, il faut bien voir, c'est là ma petite note de bas de page, que ça correspond exactement à ce que cherchent des concessionnaires privés, tout simplement pour gagner le plus de sous possible, faire payer le plus possible aux transportés ou aux marchandises. C'est évidemment ce que cherchent spontanément des transporteurs. Et là, ils n'ont pas besoin d'avoir lu Colson ou Dupuis, il s'agit simplement d'avoir une famille qu'on a envie de nourrir et de passer des vacances agréables. Donc, je crois qu'on est loin dans cette optique-là des problèmes théoriques des ingénieurs économistes. Maintenant, pour revenir aux ingénieurs économistes, alors on passe au corps des mines avec Maurice Allais. Le grand mérite, à mon avis, enfin, Maurice Allais a eu beaucoup de mérite, puisque vous avez dit qu'il a eu le prix Nobel d'économie, c'est pas rien. C'est le premier, je crois, français. Le grand mérite de Maurice Allais, c'est qu'il a fait une théorie mathématique générale, une représentation générale mathématique de la chose économique. Et dans cette théorie, il a réussi ce que personne n'avait réussi avant. Il a réussi à insérer le calcul économique à la Dupuis. C'est-à-dire que le calcul économique à la Dupuis, avant, c'était un calcul d'une application locale, si on peut dire. Et puis, avec Maurice Allais, ça devient un principe dont on arrive à trouver un fondement général. Et ça, c'est une révolution grandiose. Et Maurice Allais, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, lui, il a des élèves. Il est professeur à l'école des mines. Et lui, il a des élèves. Il fait école. Et puis, les élèves le révèrent. Et puis, disent, on va appliquer sa méthode. Nous, on est des élèves de Maurice Allais, et puis c'est vrai dans les houillères nationalisées, c'est vrai dans les transports, la SNCF, c'est vrai dans toutes sortes de domaines, et c'est un enthousiasme extrêmement fort de ces ingénieurs économistes des années 1945-1960 qui ont l'impression que cette fois-ci, il y a une théorie générale mathématique la plus complète possible et dont une des parties justifie exactement le calcul économique dont ils étaient les maîtres. Donc c'est plus seulement un petit morceau de la science économique, le calcul économique, c'est un morceau de la représentation la plus brillante à l'époque de ce qu'est la science économique.
Alors on l'a compris, dans les années 50, la théorie de Colson est un peu oublié, et pourtant Clément Colson n'a pas dit son dernier mot. Il y a encore un vaste paradoxe qui reste à illustrer, notamment celui de son rapport au libéralisme.
Dans le train de nuit, il y a des fantômes qui me sourient quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, il y a des royaumes. Et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit. Les souvenirs si tendres viennent s'y faire entendre. J'entends la voix des flots enchanteurs qui font au fond de mon cœur des sérénades. J'entends le triste appel des bateaux et la chanson des oiseaux sur l'esplanade. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. J'entends la ville qui me dit bonsoir. Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
Quittons une ville de Charles Trenet, un hommage ferroviaire rendu en 1938, soit un an avant la mort de Clément Colson. Peut-être a-t-il eu l'occasion de l'entendre, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Nous retraçons aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho la vie de Clément Colson, ingénieur économiste. Joachim de Paoli, on s'était quitté, vous nous le disiez, que dans les années 50, bon, finalement, le système de tarification tel qu'il est proposé par Colson, en s'appuyant sur les travaux de Dupuis également, est un peu oublié. Et pourtant, il va connaître une forme de retour en grâce, on peut le dire, et c'est le fameux, tout l'objet du yield management qu'on connaît aujourd'hui. Alors il faut nous expliquer, Joachim de Paoli, en quoi ce yield management consiste, et puis en quoi il est l'héritage aussi peut-être de la pensée de Clément Colson.
Alors oui, cette fois nous partons aux États-Unis. À la fin des années 1970, le transport aérien est dérégulé, c'est-à-dire que des compagnies aériennes low cost ou charter vont concurrencer les compagnies traditionnelles. Et donc, pour faire face à ces compagnies qui ont des prix assez bas, American Airlines va développer une nouvelle méthode de tarification que l'on appelle le yield management. Et cette méthode, on peut le voir, reprend, alors sans le savoir, mais des principes qui étaient présents justement chez Dupuis, puis plus tard Colson, puisque cette méthode vise en fait à faire payer à chaque usager un prix qui est le plus proche possible de la valeur d'usage qu'il accorde au transport.
Là, on revient à cette vision
d'usage. On revient à cette donc, notion de valeur d'usage. Le but est que chacun paye le plus possible qu'il est prêt à payer, avec toutefois une contrainte, Dupuis en parlait un peu, mais il n'insistait pas des masses dessus, qui était le remplissage du moyen de transport, puisque si un avion décolle à vide, la place est perdue.
Bah là, on retrouve ce que nous disait François Ettner sur cette volonté de rentabiliser cette histoire.
Exactement. Et donc, ce système est mis en place, s'impose très très vite. Au départ, le transport est vu comme un tout. Il n'y a pas le système de bagages, de nourriture qu'on peut connaître, notamment dans les compagnies low-cost. Mais justement, les compagnies low-cost qui se développent à la fin des années 90, début des années 2000, elles vont réintroduire un système d'options très proche de ce que proposait Colson, puisque au tarif de base, donc, qui cette fois va être calculé avec le yield management, va s'ajouter exactement les options que proposait Colson. Le choix de la place, alors... les compagnies mettent notamment en avant que les sièges à l'avant ont plus de place pour les jambes ou sont près des hublots ou des sorties de secours. Pour la vitesse, alors, on n'a pas deux avions qui vont aller à la vitesse différente, mais un système d'embarquement prioritaire est mis en place et des frais sont à payer pour les bagages, comme le proposait Colson.
Oui, on retrouve là les critères.
On retrouve ces critères avec des options supplémentaires comme la nourriture ou le transport de certains objets fragiles, des choses comme ça.
Et donc là, on a effectivement les prémices, on a vraiment les bases de ce yield management qui, aujourd'hui encore, est en vigueur, que ce soit pour les compagnies aériennes et spécifiquement low cost, et puis aussi aujourd'hui sur certaines lignes de train. Ça constitue un peu la trame, on va dire, de ces grilles de tarification. Je pense qu'on a compris de fait l'apport aussi de Clément Colson et la façon dont il est toujours présent dans notre quotidien. François Ettner, il y a une chose aussi sur laquelle il faut insister, nous l'avons dit, vous êtes vous-même statisticien, les statistiques, elles jouent un grand rôle aussi pour Clément Colson. Dès 1906, il est élu à l'Institut international de statistique. Il devient membre de la Société statistique de Paris en 1909. Il en devient le président en 1929. Pour Clément Colson, à quoi servent ces statistiques-là? Pourquoi est-il important pour lui aussi de diffuser leur usage? Et plus généralement, à quoi servent pour les économistes de façon générale ces statistiques-là?
Alors, en général, pour les économistes, à quoi servent les statistiques nationales? Je ne sais pas. Clément Colson, ça a été, je crois, un des premiers en France à mesurer sérieusement ce qu'on appellerait aujourd'hui le PIB, quoi, la richesse nationale. Et c'était important, d'une part dans l'absolu, mais surtout pour comparer avec des périodes précédentes, pour savoir si la France s'enrichissait ou pas, si telle période était plus prospère qu'une autre. Et à ce titre-là, Clément Colson, à la fin du XIXe siècle, démontre, mais comme d'autres plus littéraires, que la France vient de connaître un essor incroyable depuis les années 1830. Et pourquoi cet essor incroyable? Ben, une des raisons données par beaucoup d'observateurs, c'était le développement des chemins de fer. Parce que les chemins de fer, c'était la modernité, c'était le progrès, c'était la science aussi. Et on avait l'impression, beaucoup avaient l'impression que les chemins de fer avaient joué un grand rôle dans le progrès économique formidable de la France au 19e siècle. Et ça nous amène à un sujet que Monsieur Paoli connaît évidemment bien, c'est le problème de la mesure des effets induits, des effets indirects dans le calcul à la Dupuy. L'idée étant la suivante, tout le monde comprenait que les chemins de fer avaient joué un grand rôle dans le développement du progrès de la France, mais est-ce que ce rôle, il faut le quantifier et est-ce qu'il faut en tenir compte quand on fabrique une nouvelle ligne d'intérêt général, comme vous l'avez dit, une petite ligne éventuellement d'intérêt local, pardon, est-ce qu'il faut prendre en compte le fait que ça va participer à l'essor économique du pays? C'est le même problème qui se pose aujourd'hui un peu avec l'intelligence artificielle. Est-ce que le gouvernement doit essayer de donner un investissement massif dans ce secteur parce que ça va participer grandement au progrès général. C'est ce que, je crois, un président américain a estimé hier avec des chiffres avancés de 500 milliards de dollars. Et Clément Colson, un de ses apports, à mon avis, majeur à cette question, c'est de dire non. Il ne faut pas tenir compte de ces avantages indirects quand on construit une nouvelle ligne de chemin de fer.
Joachim de Paoli, sur cette question de l'usage des statistiques, et notamment parce que dans votre ouvrage, donc une manœuvre traître, mais je vous cite dans le texte, vous dites que Clément Colson fait usage des statistiques d'une façon qui caractérise un peu de façon générale l'utilisation des statistiques au 19e siècle, puisqu'il se penche aussi sur la répartition des revenus, la fiscalité et surtout la lutte contre le socialisme. Alors là, il faut nous expliquer pourquoi Clément Colson met la lutte contre le socialisme au cœur de sa réflexion.
Alors, en effet, là, donc on arrive aux questions plus sociales que traite Colson. En effet, à partir du milieu du 19e siècle, le socialisme, enfin, ce que l'on appelle les courants socialistes correspondent à ce qu'on appelle le communisme aujourd'hui, commence à représenter une force politique. Notamment, en 1884, les syndicats commencent à se créer. La SFIO en 1905. Et ce qui inquiète beaucoup les libéraux, pas seulement Colson, c'est qu'avec le suffrage universel et le poids des ouvriers, ben, l'ordre libéral en place est menacé, puisqu'il pourrait très bien y avoir une assemblée socialiste qui serait élue et renverserait le libéralisme en place.
Et pour eux, le libéralisme, c'est le progrès.
Et pour eux, le libéralisme est le progrès, le but ultime de la société.
Et la prospérité économique.
La prospérité économique, merci. Donc, on a des auteurs qui vont seulement critiquer le socialisme avec des ouvrages clairs, critiques du socialisme, par exemple.
Ça a le mérite d'être clair.
Contre le socialisme, bref. Et Colson, lui, certes, va critiquer, mais va aussi proposer de prendre en compte la misère ouvrière pour essayer, en fait, de faire en sorte que les ouvriers voient que les dirigeants, le système libéral s'occupe d'eux et donc ne se tournent pas vers ce socialisme. Alors, on peut citer notamment Colson qui va défendre une forme d'assistance. Une assistance, certes, limitée, mais présente quand même. En fait, Colson, comme les autres libéraux de l'époque, faisait des classifications de personnes pauvres. En gros, il voyait trois grandes familles de personnes pauvres. Ceux qu'il appelait les professionnels de la paresse, qui étaient des personnes qui ne voulaient pas travailler, qui pour lui se transmettaient de façon héréditaire. À l'opposé, on avait les victimes de malheurs immérités, ceux qui avaient eu un accident, ou les handicapés de naissance. Donc ces personnes-là, il fallait les aider très très largement. Et au milieu, on avait ce qu'il appelait les faibles, qui faisaient pas les efforts nécessaires pour économiser. Et donc, il pensait qu'il fallait aider cette catégorie, mais pour pas aider les professionnels de la paresse en aidant la deuxième catégorie, il proposait une assistance en échange d'un travail d'intérêt général, qui rappelle un petit peu la réforme du RSA aujourd'hui, où il faut travailler 15 heures par
hebdomadaire. François Etner, cette préoccupation sociale chez un libéral, c'est quelque chose d'incongru ou c'est finalement un mix, une sorte d'hybridation que l'on retrouve chez ces économistes-là? Et puis vous avez 20 secondes pour me répondre.
20 secondes, alors c'est facile, non. Je ne me souviens plus de la question précise. Non,
c'est exceptionnel de la part de Colson d'associer la question sociale et libérale.
Les ingénieurs économistes ont toutes les réponses vis-à-vis de cette question. Il n'y a pas pas une réponse unique par rapport à la question sociale et à la pauvreté.
Ce qui nous amène à la conclusion que finalement cette école libérale dont on parle depuis le début de l'émission est aussi un mouvement très hétérogène, finalement, qu'on retrouve énormément de courants au sein...
Sur ce point-là,
oui. Et de fait, peut-être qu'elle se retrouve sur cette perte d'influence dont on parlait en tout début d'émission. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment tous les deux, François Etner et Joachim de Paoli, d'avoir participé à cette émission.